Et il y en a les positifs qui essaient toujours de s'emporter sur l'aspect négatif. Vous voyez que c'est très intéressant, mais quel est le danger de cela? C'est que ça donne des structures, mais ça ne montre absolument pas la finalité et comment on construit. C'est ça la grosse limite. Et c'est ça la grosse faille. C'est que c'est vrai, c'est très vrai. J'ai ces consciences, ces sentiments du moi. J'ai cette conscience de sécurité et en même temps, j'ai des limites de ma sécurité. J'ai un sentiment d'autonomie et les limites de mon autonomie. J'ai un sentiment de valorisation et les limites de ma valorisation. Je sens très bien ça. Je crois que ça, on peut très bien le sentir. Bon. Mais ce qui m'intéresse, vous voyez, c'est qu'il est donné ça selon les trois dimensions et que ces trois dimensions correspondent au devenir humain. Le devenir humain se fait à travers le présent, le passé et le futur. Vous voyez ? Alors ça, c'est très intéressant de voir que c'est à travers ce devenir humain que ça se fait. Et alors, vous comprenez très bien que quand on est jeune, le passé est moindre. Quand on est plus âgé, le passé est très très grand. Alors, le très grand danger, c'est la culpabilité. Quand on est un bon vieillard qui dit « J'ai bien travaillé, c'est parfait, j'ai fait quelque chose dans ma vie, mais dans sa vie, je peux pas partir. » Et la valorisation de tout ce qu'il a fait. Je trouve que c'est bien. Un jeune, ben c'est évidemment du côté du futur, très peu dans le passé. Alors il a besoin de sécurité. Parce qu'autrement, s'il ne peut pas, il ne peut pas construire, il ne peut pas avancer. Je vais maintenant regarder au plan proprement philosophique. Parce que la position de Marie. Je vais aller assez vite, la position de Maritain. La position de Maritain, comme la position de Mounier, ce sont des positions philosophiques qui se sont construites dans des perspectives politiques. Donc, vous voyez, c'est très important de voir le climat dans lequel s'est construite cette perspective de la personne chez Audier, Charles Audier, et la perspective de Mounier et de Maritain. Alors, je ne regarde pas Mounier, nous n'avons pas le temps. Je regarde tout de suite Maritain. Mais ce serait intéressant. Mounier, c'est le fondateur de la revue Esprit, mais qui n'a pas du tout le même esprit que maintenant. Bon, alors, c'est autre chose. C'est une position différente. Ça, c'est un peu louvoyé. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que la position de Mounier, comme la position de Maritain, ce sont des positions qui se sont construites en face de ce que représentait, au point de vue politique, l'aspect totalitaire. Pour essayer de défendre la personne face à un aspect totalitaire. De comprendre qu'il y a dans la personne quelque chose qui est au-dessus du point de vue de la communauté politique. C'est ce qui a été avant tout la recherche de Mounier et avant tout la recherche de Maritain. C'est important de voir ça, vous voyez, parce qu'on peut regarder la personne au point de vue philosophique sous des aspects différents. Très bien la regarder sous des aspects différents. Bien, la perspective de Maritain, c'est très net, c'est du côté politique. Alors, Maritain fait cette distinction. Il dit qu'il faut toujours distinguer la personne et l'individu. Il fait ça en bon thomiste. C'est vrai, saint Thomas distingue très nettement la personne et l'individu. Dans le Christ, la nature humaine est parfaitement individualisé et sa personne, c'est le Verbe de Dieu, la seconde personne de la très sainte Trinité, qui assume l'individu. L'individu est formé en Marie et la personne vient de Dieu. Alors, Maritain dit qu'il faut distinguer individu et personne. Alors, je caricature un tout petit peu, mais pas tellement. Pas tellement. Je caricature un peu pour simplifier, parce qu'on pourrait arriver à certaines nuances un peu plus grandes. Maritain a cette tendance de dire l'individu, il est parti du tout qui est l'État. Tandis que la personne, elle est tout, Et donc, elle ne peut pas être intégrée dans l'État. Et souci de montrer comment il y a dans l'homme quelque chose qui dépasse le point de vue de la communauté politique, pour ne pas tomber dans une socialisation absolue, où on est uniquement un numéro dans le tout. Il y a quelque chose qui est au-dessus de la personne, parce que la personne a une finalité transcendante. La personne a quelque chose d'infini. Et parce que la personne a quelque chose d'infini, elle a une finalité transcendante. Elle dépasse donc ce que représente le bien commun. Le bien commun de la communauté politique. La communauté politique a un bien commun. Eh bien, ce bien commun, il est ce qui finalise l'individu comme partie de la communauté, mais la personne dépasse. Alors, vous voyez que cette distinction, elle est intéressante, mais elle ne colle pas à la réalité. Je vais tout de suite vous le montrer. Si j'essaie de comprendre comment l'homme est partie d'une communauté, de la communauté politique, saint Thomas nous dit que l'homme est un animal politique. Donc l'homme, comme homme, est une partie de la communauté, comme homme. Donc il est partie de la communauté, pas seulement comme individu, mais comme personne, puisqu'il doit coopérer avec les autres personnes. Donc la distinction ne peut pas se prendre entre individu et personne. Parce que, de fait, c'est l'homme, en tant que personne créée à l'image de Dieu, qui est un individu. Tout ce qui est individuel en moi est personnel, c'est bien évident. Et que l'homme est partie de la communauté en tant qu'il est une personne. La distinction ne doit pas se prendre de ce côté-là. Pourquoi ? Parce que je suis dans une perspective pratique. La distinction personne et individu est une distinction qui se fait d'un point de vue spéculatif. C'est une analyse spéculative. Et c'est même une analyse théologique. Tandis que ici, je suis dans une perspective de philosophie pratique, pour essayer de comprendre ce qui, dans l'homme, émerge la communauté humaine, émerge la communauté politique. C'est donc du côté de la finalité que je dois regarder. Il y a dans l'homme une finalité qui est au-delà de la communauté politique. C'est quelle finalité ? La contemplation. La contemplation ne fait pas partie du bien commun de l'État. L'État doit respecter la contemplation. Si c'est un État qui est tout simplement humain, il doit respecter cette finalité. Il ne comprend pas grand-chose. Hein. Ne demandez pas nécessairement au président de la République de comprendre ce que c'est que la contemplation. Ça, il n'est pas obligé de lui demander. N'est-ce pas ? Mais il doit respecter. Il doit respecter parce qu'il peut dire, ben oui, il y a là une finalité humaine que je dois respecter, la contemplation. Il doit respecter l'amitié. Ah, l'amitié personnelle. L'amitié personnelle est au-delà du point de vue de du bien commun. Dans l'amitié personnelle, nous l'avons vu, il y a le point de vue de la famille. La famille repose sur un amour d'amitié de l'homme et de la femme. Donc l'État doit laisser libre le choix dans l'ordre de l'amitié. Le choix de l'homme et de la femme pour fonder le foyer. C'est au-delà du bien commun. Ça regarde directement le point de vue de la personne humaine, sa responsabilité à l'égard d'une autre personne. Et dans la famille, ce sont les époux qui ont la responsabilité de la famille. Donc la responsabilité de la procréation. L'État n'a pas le droit de diminuer ou de limiter le droit de naissance. C'est abusif. L'État n'a pas le droit. au sens propre, parce que ceci fait partie directement de la personne humaine dans son amour personnel à l'égard d'une autre personne. L'amour des conjoints, c'est la famille. Ceci regarde la famille. L'État peut donner des conseils, à titre de conseil. L'État peut dire, faites attention, s'il y a trop d'enfants, il y aura des tas de problèmes. Alors on peut répondre à l'État, mais il y a d'autres problèmes, plus immédiats, et plus... C'est très bien. Mais c'est un conseil, mais il ne peut pas intervenir directement. S'il intervient directement, c'est abusif. Il détruit la personne, parce qu'il touche à la finalité. Les deux grandes finalités. Alors, c'est ça qui est important à comprendre. C'est que la finalité personnelle est au-delà de la communauté politique, et la communauté politique ne touche pas directement la finalité de l'homme. La communauté politique regarde le bien commun, c'est-à-dire les dispositions qui me permettront d'atteindre plus facilement ma fin. Donc le bien commun regarde les dispositions, le conditionnement dans lequel je vis, pour me permettre d'atteindre plus facilement la fin. L'État, dans son bien commun, devrait être attentif de ne mettre aucun obstacle à l'amour d'amitié et à la contemplation. De mettre aucun obstacle à l'épanouissement de la famille et permettre à la famille de pouvoir se développer dans son autonomie propre. Parce que la communauté familiale a son autonomie propre qui repose sur l'amitié des conjoints. Le bien commun de l'État est donc un bien commun qui regarde bien la personne humaine, mais la personne humaine engagée dans une coopération à l'égard d'une autre personne humaine, à l'égard d'autres personnes, en vue d'un bien commun. Le bien commun n'est pas une finalité propre. Le bien commun est un bien qui est le bien commun de tous ceux qui font partie de la communauté politique. Mais ce n'est pas une finalité propre. La finalité propre, c'est la contemplation et l'amitié. Alors, il y a un problème qui serait très intéressant à savoir. Est-ce que le bien commun de l'État peut-il commander aux artistes, étant donné que l'art n'est pas une finalité propre? Est-ce que l'État a le droit d'imposer un style aux artistes? Est-ce que, de fait, quand l'État intervient par rapport à l'inspiration, par rapport à la réalisation artistique, est-ce que c'est un abus de l'État ou pas? Oui, ça c'est une position très importante à voir, parce que ça ne regarde pas directement la finalité. L'art ne regarde pas directement la finalité, mais l'art implique un développement propre de l'homme. Et l'art implique un développement propre de l'homme et fait partie directement du climat de culture dans laquelle l'homme se développe. Alors, est-ce que l'État peut intervenir là? Ou est-ce que l'État doit respecter la personne humaine jusque-là? Je crois qu'un État intelligent doit respecter la liberté de l'homme jusque-là. On doit respecter, mais on doit faire attention qu'un art ne doit pas détruire la personne de l'homme. Alors là, l'État peut intervenir. L'art ne doit pas être moralisant. L'art doit se développer pour lui-même. Mais l'art ne doit pas détruire la personne humaine. Un art qui détruit la personne humaine est un art qui se tue. Là, il y a des très gros problèmes. Je dis ça rapidement, mais c'est des problèmes très importants. Parce que l'art ne doit pas être soumis à la morale. Ça, sûrement pas. L'art a son autonomie. Mais l'art est soumis à l'homme et à la finalité de l'homme et à la personne de l'homme. Vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose. Mais c'est important de le comprendre. Et donc, par le fait même, l'État n'a peut intervenir lorsque l'art devient un art qui désagrège la personne humaine. Vous voyez, un cinéma qui désagrège la personne humaine, l'État peut intervenir. en disant ce cinéma, ce film, est un film qui est mauvais par rapport à ce que représente la conception même de la personne humaine. Par rapport à la finalité, il va intervenir. Il va intervenir par rapport à un art qui désagrège la personne. Vous voyez, les limites ne sont pas commodes. Les limites ne sont pas commodes à voir. Parce que c'est la finalité de l'homme. C'est la finalité de l'homme qui met la limite. Donc, vous voyez, j'aime mieux plutôt que la distinction de Maritain. Elle n'est pas fausse, mais elle n'est pas adéquate. Parce que dans la distinction de Maritain, l'individu, vous comprenez, la procréation, ça regarde la personne, ça regarde l'individu. C'est bien évident, c'est pas la personne qui procrée, c'est la personne et l'individu. Alors, si l'individu est totalement parti de l'État, donc la procréation est totalement partie de l'État. Et donc, l'État peut intervenir. Alors, à ce moment-là, on ne sauve plus la famille. Il faut donc prendre une distinction qui n'est pas celle-là, personne et individu, mais prendre une distinction qui se prend du côté de la finalité. Tout ce qui regarde la finalité de la personne humaine, tout ce qui regarde la finalité propre de la personne humaine, eh bien, là, on regarde le bonheur propre de l'homme, et le bien commun de l'État ne peut pas intervenir directement. Le bien commun de l'État intervient vis-à-vis des dispositions et des moyens, mais pas de la fin. Ce qui permet de créer un climat dans lequel la personne humaine pourra se développer. Et c'est là où on voit très bien comment un État totalitaire, eh bien, abuse toujours. Et donc il est inhumain. Parce qu'il diminue la personne humaine. Et donc un État totalitaire se détruit lui-même. Il peut durer un certain temps, c'est sûr. Mais il se détruit lui-même. Parce qu'un État présuppose des personnes. L'État ne crée pas des personnes. Il repose sur des personnes. Et donc il présuppose des personnes. Si il détruit la personne, il se détruit lui-même. Ça, c'est impossible autrement. Parce que l'État est au service de la personne. La personne est l'absolu. Ce n'est pas l'État qui est un absolu. C'est la personne humaine. L'État est pour la personne humaine, et non pas la personne humaine pour l'État. Et on ne peut pas procréer pour le bien d'Hitler. C'est impossible. Et c'est impossible. Procréer pour le bien d'Hitler, c'est la destruction de la race humaine. On ne peut pas créer, parce que c'était ce qu'il se disait à ce moment-là. J'ai un enfant pour Hitler. On n'a pas un enfant pour la France. On a un enfant pour l'homme. Oui, c'est très important de comprendre ça. L'État ne finalise pas la famille. L'État ne finalise pas. L'État doit protéger la famille, l'État doit aider la famille, mais la famille est plus fondamentale et elle est au-dessus parce qu'elle est fondée sur le point de vue de l'amour d'amitié. Donc, c'est très bien ce que dit Maritain, mais on ne peut pas s'y arrêter, c'est pour ça que je vous corrige cela, et nous devons regarder la personne humaine au-delà du point de vue politique. La politique et la philosophie politique ne me permet pas de construire ce que c'est que la personne, puisque c'est seule la finalité qui me permet de comprendre ce que c'est que la personne humaine. Donc la finalité contemplative est la finalité d'amitié. Alors c'est à partir de là que nous regarderons demain matin, si vous voulez bien, ce qu'est la personne humaine. Alors, si vous voulez, nous allons terminer, puisqu'il faut terminer, sur la personne. Je vous ai rappelé hier, très rapidement, une petite historique sur la personne au plan philosophique. Comment ce problème de la personne, on dirait aujourd'hui assez facilement que le problème de la personne est vraiment un des problèmes de la philosophie chrétienne. C'est vrai. Je crois que la révélation a donné un sens très aigu de ce que représente la personne, de ce que représente l'individu, ce que représente la responsabilité de chacun, créée à l'image de Dieu.
Alors, ça s'est développé, tout ce problème de la personne s'est très développé chez les théologiens. Au moment où la philosophie s'est séparée de la théologie, avec Descartes, à ce moment-là, c'est très curieux du reste, que à la place du problème de la personne, c'était le problème de la liberté. Là, il y aurait des choses très intéressantes à voir. Pourquoi ce qui avant était avant tout le problème de la responsabilité et de la dignité de la personne, avec l'arrachement de la philosophie par rapport à la théologie, le problème qui a été mis le plus en lumière, c'est la liberté. Descartes, à la place de considérer que l'homme est à l'image de Dieu par le dominium, l'intelligence et l'amour, Descartes considère que l'homme est à l'image de Dieu par sa liberté. Donc la liberté va remplacer tout le problème de la dignité de la personne. Vous voyez, c'est un tournant très important, cela. Parce que ordinairement, ce qui est pensé au niveau philosophique, petit à petit, alors se rapplique après. Et il y a là quelque chose d'assez curieux. On ne l'a pas assez souligné. Les théologiens insistaient sur la dignité de la personne, et en insistant sur la dignité de la personne, on insiste sur la responsabilité de la personne, et on insiste sur le problème de l'amour. Tandis que Descartes, lui, met la liberté avant tout. Vous voyez, le tournant de Descartes est très important, sous beaucoup de points, nous l'avons déjà vu. Descartes est sûrement quelqu'un qui croyait devoir faire cela. Je ne crois pas qu'il avait des intentions perverses. Je ne crois pas. Mais il était peut-être mené par des intentions perverses qui n'étaient pas les siennes. Là, c'est autre chose. Mais ce qui est très très curieux, c'est que Descartes, lui, met alors en pleine lumière le problème de la liberté, et que c'est cela qui définit l'homme. Et ce n'est plus donc la responsabilité. Et si je veux préciser, je vois que pour Descartes, l'amour n'est plus ce qui explique la liberté, mais c'est la liberté qui explique l'amour. Vous voyez, il y a deux problèmes d'inversion cartésienne par rapport à la pensée du réalisme. Je vous dis ça, c'est parce que c'est intéressant, étant donné qu'on est toujours un peu plongé dans Descartes. On est plus ou moins cartésien, sans le savoir, mais on est toujours un peu. Alors c'est intéressant de voir cela. Les deux inversions de Descartes, les deux inversions. L'inversion que je vous ai déjà vue, que je vous ai déjà dit, pour Aristote, le tout oti, je le mets en grec pour que ça vous donne plus d'intelligence, hein, et le tout esti. Le tout oti, le ti esti, implique cet ordre. Alors le tout oti, c'est le fait d'exister. Le fait d'exister. Ceci est. Le tauti implique ça. Jugement d'existence, c'est le fait d'exister. Et puis, le tiesti, qu'est-ce ? Pour Aristote, il faut d'abord constater que la réalité existe avant de demander ce qu'elle est. Ce qui est du bon sens. Il faut d'abord demander, est-ce que cette réalité existe ? Je découvre d'abord une réalité. Autrement dit, le fait de l'exister d'une chose est antérieur avant de la connaître. Le monde existait avant que nous naissions, je crois. Si le monde existait avant que nous naissions, il faut que nous découvrions ce monde. C'est pas nous qui avons donné au monde sa signification. Le monde existe. Alors c'est très vrai que la signification du monde provient de notre intelligence. Mais avant nous, il y avait quand même des êtres qui étaient aussi intelligents. Le monde n'est pas devenu intelligent à partir de nous. Ils étaient déjà intelligents avant nous, et puis nous faisons partie de cette intelligence qui donnons l'intelligence au monde. Alors, pour Aristote, le fait d'exister est premier, et l'interrogation qu'est-ce est seconde. Tandis que pour Descartes, c'est l'inverse. L'interrogation qu'est-ce devient première, et le fait d'exister devient second. On parle des idées, et on se demande si ces idées existent. C'est le gros problème de Descartes. Comment rejoindre la réalité ? Je parle de mes idées, cogito, je pense. Alors, est-ce que je pense touche la réalité ou pas ?
Vous comprenez très bien qu'en posant le problème de cette manière-là, je ne rejoins jamais la vérité, la réalité. Je la rejoins à travers mon idée. Et donc, j'ai un a priori
fondamental qui est mon idée. Descartes aurait pu se poser la question, d'où vient cette idée? Descartes s'est posé la question, il dit, les idées sont innées. Alors, si les idées sont innées, évidemment, je mesure la réalité et c'est moi qui donne au monde sa signification. Bon, ça, première inversion, c'est très important, parce que tout l'idéalisme est venu de là, hein, faut pas l'oublier. Deuxième problème, un problème d'ordre, alors pratique, qui est très important, pour saint Thomas, ici c'est plus Aristote, ici c'est Aristote, ici c'est saint Thomas, mais saint Thomas et Aristote se donnent la main souvent, ils donnent bien la main. Saint Thomas a poussé Aristote jusqu'au bout de ses exigences, en tant qu'il était théologien et qu'il avait une lumière supérieure, mais il n'y a pas d'opposition. La grande opposition vient chez Descartes. Pour saint Thomas, l'amour est premier, il est fondamental. Et la liberté naît à partir de l'amour. Pour que l'amour puisse aller jusqu'au bout de ses exigences. Nous avons vu, vous vous souvenez, ce que nous avions vu hier. Nous avons vu que le choix libre présupposait un amour fondamental. Donc le choix libre, mettons-le là, le choix libre présuppose un amour fondamental. Donc l'amour est premier et le choix libre naît à partir de l'amour. Tandis que pour Descartes, la liberté est première, donc encore inversion, la liberté est première et c'est de la liberté que va naître l'amour. Alors ça n'a l'air de rien ça, mais c'est absolument capital. C'est une inversion analogue à ces deux. Je crois que c'est les deux grandes inversions de Descartes. Par rapport à Aristote, par rapport à Zadon. Une fois que vous avez ça, vous utilisez tout Descartes. Une fois que vous avez compris ça. Vous voyez le grand changement, la révolution qui est faite. Une révolution qui est faite par un bourgeois. Toujours comme ça, ils n'arrivent pas au nouveau bourgeois. Alors, c'est ce bourgeois Descartes, qui est un beau bourgeois, c'est quelqu'un Descartes, c'est pas n'importe qui. Il le sait. Alors, c'est du reste la qualité du bourgeois, c'est qu'il le sait. Alors, là, il le sait très bien, qu'il a ce droit de bourgeoisie, et qu'il est quand même quelqu'un de très bien. Alors, il va faire cette invention, cette inversion du côté pratique et cette inversion du côté spéculatif. Alors, vous voyez tout de suite le changement. C'est que l'amour me permet de rejoindre le bien. Qui est ma fin. La liberté ne regarde pas premièrement le bien et la fin. La liberté regarde en premier lieu le sujet, l'homme. C'est ça que regarde lui. Quand je pose un acte libre, je regarde avant tout la modalité de mon acte. C'est la modalité de mon acte. C'est du côté de l'exercice, c'est du côté du sujet. Tandis qu'au contraire, l'amour est premièrement ordonné comme le bien. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir? Le primat du sujet. Le primat du sujet. D'où la morale de la situation chez Sartre. Ce n'est plus la morale du bien, c'est la morale de la situation. C'est le sujet dans sa situation qui est première. C'est le point de vue de la liberté liée au sujet, donc liée à l'exercice même du sujet, qui est première. Et l'amour va suivre. C'est dans la mesure où je suis libre que je peux aimer. Alors, quand vous faites ça, vous n'aimez jamais. À partir de là, on tue l'amour. L'amour est premier par rapport à la liberté. J'aime le bien qui est ma fin. Et à l'intérieur de cet amour va naître la liberté. Tandis que si vous faites l'inverse, au bout d'un certain temps, l'amour disparaît. Vous voyez, ça explique comment Descartes a été là, pièce tournante. Alors vous voyez, pour la personne, Descartes ne parle pas de la personne, mais ce serait très intéressant.
si je reconstruis Descartes en disant quel point de vue de la personne pour Descartes, c'est très simple, ça ne peut être que la liberté. C'est par la liberté que l'homme est le plus proche de Dieu. La liberté remplace l'image divine. C'est la liberté qui est le point de contact le plus profond de l'homme avec Dieu. C'est par là qu'il y a quelque chose de tout à fait semblable. Descartes va très loin là-dessus. Il dit, nous avons la même liberté que Dieu. Et donc notre liberté est infinie. Pas de limite à notre liberté. Vous voyez, Sartre est déjà présent. C'est ça qui est très extraordinaire. Et Sartre a très bien saisi. Sartre, en regardant Descartes, a dit, si Descartes vivait de notre temps, il aurait pris exactement la position qu'il a pris. Il serait athée. Mais Descartes était croyant parce qu'il était de son temps. Et en effet, c'est très vrai que la position de mettre le primat absolu de la liberté fait que fatalement, mettre une liberté infinie, fatalement, c'est se mettre dans une position où vous ne pouvez plus reconnaître le primat de la dépendance à l'égard de Dieu. Et donc, vous ne pouvez plus comprendre ce que c'est que l'adoration. Vous pouvez comprendre l'adoration à l'intérieur de l'amour, mais pas à l'intérieur de la liberté. Si la liberté est première, vous comprenez. C'est à l'intérieur de l'amour que je découvre que l'amour peut être victorieux d'une dépendance. Mais la liberté n'est pas victorieuse d'une dépendance. Tout ce qui est dans l'ordre de la dépendance s'oppose à la liberté. Et donc, je mets l'opposition entre la liberté et l'adoration, vous voyez. Parce que la liberté, c'est justement le fait que je puisse, surtout la manière dont Descartes conçoit la liberté, c'est au fond une espèce de primat absolu d'un exercice que je pose, l'acte que je désire poser. La liberté fait que je pose tel acte ou je ne pose pas tel acte, et puis c'est tout. Donc il n'y a pas de primat d'amour. Et donc dans cette conception, la personne ne peut plus se concevoir que dans cette attitude réflexive sur elle-même, dans une subjectivité transcendantale. Et vous avez la subjectivité transcendantale de Kant. Et comme c'est curieux, Descartes contient Kant, Descartes contient Sartre. Il est le père et le grand-père de tout cela. Ça, c'est très important de le saisir, vous voyez, c'est très important de saisir cela. Avec le primat de la liberté, vous redécouvrez la subjectivité transcendantale de Kant et vous découvrez l'absolu de la morale de situation. Ça. Bon, ceci, c'est simplement pour faire un petit rappel qui est important. Nous allons maintenant essayer, au-delà de Descartes, de Sartre et de Kant, puisqu'il s'agit de dépasser tout cela, c'est ça qui est la situation merveilleuse actuellement. Hein. Ce que Heidegger dit très très bien. Heidegger dit, nous sommes dans une situation privilégiée. Pourquoi ? Parce que la corruption a été si grande qu'on est obligé de tout reprendre à la racine. C'est jamais drôle d'être au creux de la vague. Mais c'est très important quand on est au creux de la vague. Parce qu'on peut tout reprendre. On est obligé de tout reprendre. Pour pouvoir sauver en nous ce qu'est l'esprit, ce qu'est l'homme, on est obligé de tout reprendre. C'est ça le renouveau. C'est toujours obligé de tout reprendre. Parce que, de fait, on est dans une situation ultime, dernière. La corruption de la philosophie a atteint son point dernier avec Nietzsche. C'est le jugement de Heidegger avec Nietzsche. Alors, comprenons. Je pars de l'amour d'amitié. Je pars de la contemplation. Je dis que c'est dans l'amour d'amitié et dans la contemplation, nous l'avons vu ça, que l'homme atteint sa fin. C'est là où il est parfaitement épanoui. Dans la mesure où il aime quelqu'un qu'il aime
et dans la mesure où il contemple Dieu. Le problème de la personne divine, Dieu, et le problème de la personne humaine.
Alors, c'est en étant en contact avec une personne humaine et en contact avec la personne divine, donc les deux absolus, il y a bien deux absolus. La personne humaine est un certain absolu, la personne divine est un autre absolu. Que l'homme, que l'ami, dépend de l'homme, l'homme ami, l'homme religieux et contemplatif, se découvre lui-même. Et qu'il se découvre comme une personne.
Il se découvre comme une personne. Pourquoi ?
Parce que je ne peux atteindre un absolu que s'il y a en moi-même un certain absolu. Je ne peux être uni à un certain absolu que s'il y a en moi-même un certain absolu. Autrement, c'est impossible. Si j'étais totalement relatif, je ne pourrais pas avoir un amour d'amitié avec quelqu'un qui est mon bien et que je considère comme un certain absolu. Je ne pourrais pas contempler Dieu qui est l'absolu s'il n'y avait pas en moi-même un certain absolu. Je découvre donc, par l'amour d'amitié et par la contemplation, qu'il y a en moi un certain absolu. La personne humaine possède en elle-même un certain absolu. Qu'est-ce que c'est que cet absolu de la personne humaine ? C'est là où se pose le problème. Qu'est-ce qu'il y a d'absolu en moi ? En chacun d'entre nous. Oui, le noyau profond de notre personne, c'est quelque chose d'absolu. Qu'est-ce que c'est que ce noyau profond ? Eh bien, ce noyau profond, c'est notre âme spirituelle unie à notre corps. C'est-à-dire, c'est notre substance au niveau métaphysique. C'est notre principe de notre indépendance. Donc, c'est l'âme spirituelle liée au corps, notre substance, principe de notre être. Où nous avons en nous une certaine unité de notre propre existence. Voilà le noyau qui est quelque chose d'absolu. Ce qui n'existe pas chez les autres animaux. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas d'âme spirituelle. Et donc, chez les autres animaux, n'ayant pas d'âme spirituelle, ils restent au niveau uniquement de la vie. Un vivant relatif à un autre vivant, et ainsi de suite. Ils sont dans la série. L'homme, en tant que personne, échappe à la série. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette relation verticale vis-à-vis de Dieu. Nous ne sommes pas seulement en relation horizontale. Par la procréation, nous sommes en relation horizontale. Nous sommes le fils ou la fille d'un tel, et eux-mêmes sont la fils et le fils d'un tel. C'est le père, n'est-ce pas, qui rejoint tout le temps. Et alors, en fond, on est dans une relation horizontale. Et c'est le relatif qui appelle le relatif, qui appelle le relatif, qui appelle le relatif. Et ainsi de suite. Tandis qu'il y a en nous quelque chose d'absolu, c'est que notre âme spirituelle, elle est de fait créée par Dieu. Si notre âme spirituelle est créée par Dieu, il y a en nous quelque chose d'absolu qui nous permet d'être totalement indépendant de tous les autres. Si notre âme spirituelle est créée directement par Dieu, nous avons une dépendance vis-à-vis de Dieu et une indépendance souveraine vis-à-vis de tous les autres. Nous découvrons par là progressivement qu'il y a en nous quelque chose d'absolu, c'est-à-dire qu'il y a en nous une autonomie radicale, fondamentale. La personne implique en premier lieu cette autonomie dans l'ordre de l'être, qui est le problème même que les philosophes et les théologiens, parce que c'est les théologiens qui ont inventé le mot, c'est le problème de la subsistance. Alors, subsistance, ne prenez pas le mot subsistance à la manière des stoïciens. Le mot subsistance à la manière des stoïciens, c'est tout ce qui est nécessaire pour vivre. N'est-ce pas ? C'est le pique-nique. faut emporter pour pouvoir subsister.
Alors ça, c'est la subsistance. Et les stoïciens appellent ça la subsistance. C'est les
nécessités de la vie. Je prends ici subsistance au sens beaucoup plus profond, c'est-à-dire au niveau de l'être.
La personne, c'est cette subsistance dans l'ordre de l'être. Il y a une autonomie fondamentale en nous, dans l'ordre de l'être. On est indépendant. Pourquoi ? Parce qu'on est directement créé par Dieu.
Il y a donc en nous cette subsistance. C'est ça notre personne. En premier lieu,
oui, c'est intéressant de voir que la première chose que nous découvrons, c'est l'autonomie dans l'ordre de l'être.
Ce qui fonde ce que nous avions dit hier de Charles Audier, le moi, le sentiment du moi, c'est d'abord l'autonomie.
Mais alors, à la place de voir une autonomie au niveau du sentiment, on voit une autonomie dans l'ordre de l'être. Il y a en nous une autonomie dans l'ordre de l'être. Et cette autonomie dans l'ordre de l'être, c'est justement notre propre subsistance. C'est notre personne. La personne implique en premier lieu l'autonomie. C'est très important, vous voyez, de voir ça. Parce que ça nous fait comprendre que nous ne pouvons aimer quelqu'un que s'il y a en nous d'abord l'autonomie. Et c'est très vrai, ça. Bon, c'est la première note. Mais cette autonomie dans l'ordre de l'être, des points de vue de l'âme spirituelle et du corps, ne peut se développer que si notre âme spirituelle émerge du corps, puisque nous subsistons dans notre âme et par notre âme. Notre âme spirituelle a cette capacité particulière de faire subsister le corps. Notre corps subsiste grâce à notre âme, c'est pas l'inverse.
Ça, nous l'avions déjà vu, mais je le reprends ici pour bien souligner cela.
Notre corps ne subsiste que grâce à notre âme. Notre corps n'existe que par notre âme. C'est notre âme qui donne à notre corps sa subsistance et son autonomie. Or, notre âme spirituelle implique, parce qu'elle est esprit, en tant qu'elle émerge du corps, elle implique deux grands développements. Le développement de la volonté et le développement de l'intelligence. Voilà les deux grands développements de l'esprit. Le point de vue de la volonté, le point de vue de l'intelligence. Le point de vue de la volonté, nous l'avons vu, c'est le point de vue de l'amour spirituel par où nous sommes capables d'aimer une personne. Alors, ma personne humaine ne pourra être vraiment personne humaine que dans la mesure où je découvre ma finalité. Ce que le psychologue Charles Audier ne disait absolument pas. Il ne voyait que le point de vue de la structure de la personne. Tandis que ce qui est intéressant, c'est de voir que justement, l'autonomie n'est pas la finalité. J'ai une autonomie. C'est très bien d'avoir l'autonomie. C'est parfait. Mais l'autonomie, c'est pour réaliser quelque chose. C'est pour être capable de me dépasser. Je suis autonome pour être capable de me lier à quelqu'un d'autre. Je ne suis pas autonome pour le plaisir d'être autonome. Ça, c'est de l'infantilité. C'est le gosse qui veut être autonome pour être autonome. Et quelquefois, il y a des états qui sont comme ça. Ils sont dans un état d'infantilité. Quand ils veulent être autonomes pour le plaisir d'être autonomes. Non, on est autonome pour être capable d'aimer, pour découvrir notre finalité. Alors nous découvrons ici que c'est vrai, l'autonomie est un élément subsisté dans l'être, est un élément absolument essentiel de la personne. Mais la personne ne peut être personne que dans la mesure où elle atteint une autre personne. Alors là, nous découvrons la limite de notre personne. La personne ne peut se définir que grâce à une autre personne.
Très, très beau. Qu'en atteignant une autre personne, c'est par la relation d'amour à l'égard d'une autre personne, qu'il s'agisse de l'amour d'amitié ou la contemplation, ça revient au même, des deux côtés, c'est l'amour. C'est en rejoignant un autre qui est une personne que ma personne se développe parfaitement, que je suis parfaitement moi-même. Ça, c'est très, très, très important de saisir cela. Vous voyez, c'est dans la mesure où je suis capable d'aimer que je suis parfaitement moi-même. C'est dans la mesure où je suis capable de me dépasser, nous avons vu, l'amour implique le point de vue extatique, donc implique le point de vue du dépassement de soi-même. C'est dans la mesure où je suis capable de me dépasser que je suis parfaitement moi-même. La personne humaine se définit en fonction même de son dépassement. Et pas uniquement dans l'autonomie. L'autonomie est nécessaire pour le dépassement, mais l'autonomie est pour le dépassement. Et c'est sans doute dans ce dépassement que je suis parfaitement moi-même. Ce dépassement ne peut se faire que grâce à l'intelligence. L'amour n'est spirituel et ne peut être spirituel que si l'intelligence est là pour lui donner sa pleine lucidité et sa pleine conscience. Autrement, l'imaginaire s'en empare, et nous avons vu comment l'imaginaire nous empêche de nous dépasser. C'est ce qui est terrible dans l'imaginaire. L'imaginaire nous maintient en prison. Et nous sommes liés à nous-mêmes. C'est une prison dorée, mais c'est une prison d'imaginaire. Et à cause de l'imaginaire, nous n'arrivons pas à rejoindre l'autre. Donc nous ne nous dépassons pas. C'est l'anti-transcendance, hein, l'imaginaire. C'est l'anti-transcendance. C'est la fausse transcendance. Mais c'est l'anti-transcendance. Quand vous restez dans l'imaginaire, vous n'arrivez jamais à vous dépasser. Donc vous êtes toujours dans cette anti-transcendance. Tandis que l'amour, au contraire, est seul ce qui me permet de rejoindre l'autre. Mais l'amour, pour rejoindre l'autre, a besoin d'intelligence. Il faut que l'intelligence puisse se développer comme intelligence, c'est-à-dire comme recherche de la vérité. Pour vraiment rejoindre l'autre. Parce que la vérité, c'est l'intelligence qui atteint la réalité et qui accepte que cette réalité la mesure. Vous voyez la vieille définition de la vérité qui reste parfaitement vraie. Il ne faut pas dire que ça a changé. Ça n'a pas changé du tout. Qu'est-ce que c'est que la vérité? C'est l'adéquation, la conformité de l'intelligence avec le réel. C'est la définition de pensée Thomas. Alors aujourd'hui, évidemment, sortez pas ça trop en Sorbonne. Hein. Faites un petit peu attention. Vous pouvez le sortir au bout d'un certain temps, mais pas tout de suite. N'est-ce pas? Vous pouvez le sortir en disant...